si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de toi de rester fidèle. Chers frères évêques, frères et sœurs dans le Christ, l'accomplissement de la loi domine toute la liturgie de ce jour. Dans notre première lecture, Ben Sirac le sage a choisi de l'aborder sous l'angle de la liberté. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Cette affirmation, en réalité, fait écho à la déclaration de Dieu dans le livre du Deutéronome. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens, ni hors de ton atteinte. Toutefois, le Seigneur ajoute, car la parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. La loi ou la parole n'a donc rien d'une contrainte qui s'imposerait de l'extérieur. Elle doit habiter l'intime de l'être, le cœur. C'est alors qu'elle devient une nourriture quotidienne, une nourriture de vie, pour que tu la mettes en pratique. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Dieu nous laisse libres. Nous pouvons choisir la fidélité au Seigneur Dieu ou choisir de nous éloigner de lui. Nous pouvons choisir la fidélité ou le refus, la vie ou la mort. C'est la conviction religieuse de Ben Sirac le sage. Mais il ajoute qu'en réalité, c'est la sagesse de Dieu qui nous donne cette liberté. Si nous acceptons le don de la liberté, nous ne pouvons en définitive que choisir la fidélité. Dieu nous destine à la sainteté, à la vie en plénitude. C'est là le seul objectif sérieux de notre vie d'ici-bas. Le reste, l'égarement, l'échec, la mort ne font pas le poids avec les promesses de Dieu. L'enjeu est donc vital. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, c'est-à-dire la vie et la mort. Le psaume de méditation qui suit immédiatement notre première lecture développe aussi cette symbolique du chemin pour en détailler les implications. Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences. Ils le cherchent de tout cœur. Dans sa totalité, ce psaume 118, le plus long de tous les psaumes, comporte 22 strophes de 8 vers, autant que de lettres de l'alphabet hébraïque. Chaque vers comporte un des mots qui désigne la loi du Seigneur, des synonymes qui désignent la loi du Seigneur, les commandements, la volonté, les exigences, le chemin, les préceptes, la justice. Ce psaume est une grande louange confiante adressée à celui qui s'est fait connaître personnellement à son peuple et lui a donné la loi de vie. On retrouve de façon développée la recommandation du Siracide. Si tu veux, tu peux garder les commandements. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous parle aussi de la sagesse. Non pas de la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent, mais la sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. La sagesse, fondamentalement, c'est l'art de bien conduire sa vie. Les disciples du ressuscité recherchent non pas la sagesse des puissants de ce monde, mais la sagesse divine, longtemps cachée et qui leur est révélée grâce à l'Esprit que le Christ leur envoie. La suite de la lettre de saint Paul sera plus explicite. Cette sagesse de Dieu s'identifie au Christ Jésus Sauveur. C'est lui, le Christ, le Verbe fait chair, qui est la sagesse éternelle de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus prend position face à l'enseignement des rabbins. En effet, son auditoire est composé de juifs pour qui la loi et les prophètes constituent le cœur même de leur foi. Vous avez appris, dit le Seigneur, eh bien moi je vous dis. Le Seigneur est-il fidèle à la tradition reçue ou inaugure-t-il une loi nouvelle? Qui peut se permettre de bousculer la loi de Dieu? Jamais Moïse lui-même aurait osé dire « Moi, je vous dis ». Pour l'évangéliste, Jésus a autorité sur la loi. Et c'est simple. Les disciples ont compris après Pâques que Jésus est beaucoup plus qu'un envoyé de Dieu. Il appartient à la famille de Dieu. Il est la parole de Dieu, venu habiter parmi nous. Personne ne peut parler de Dieu comme Jésus. Seul Jésus, le Fils de Dieu, peut parler de Dieu. C'est donc sans prétention que Dieu peut affirmer, que Jésus dit, je peux affirmer, eh bien moi je vous dis. On peut être étonné par l'exigence extraordinaire de Jésus dans le sermon sur la montagne. Pour comprendre ces exigences, on doit se rappeler ce qui est au centre de la foi chrétienne. Le kérygme, nous rappelle le pape François. Le Christ mort et ressuscité, la résurrection de Jésus. Dieu, en effet, en ressuscitant Jésus, a inauguré la création d'une nouvelle humanité. Avec la création, avec la résurrection du Seigneur, tout est nouveau. Avec le ressuscité, on se trouve déjà dans l'ère messianique, dans les derniers temps. Et il faut vivre en conformité avec cette nouvelle époque, avec cette nouvelle vie que nous avons tous reçue en nous au jour de notre baptême, et ainsi nous préparer à la manifestation définitive du royaume de Dieu. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, nous dit Jésus. Alors, Jésus vient-il seulement apporter une plus grande intériorisation de la loi de Moïse? L'accomplissement est ailleurs. L'accomplissement est dans la personne même de Jésus. ce qui est unique, ce qui est nouveau, spécifique, c'est que Jésus soit l'expression même de Dieu. Et puis, sa vie de fidélité jusqu'au bout à Dieu son Père est aussi une illustration de cet accomplissement des Écritures. Jésus est venu pour révéler au monde la pleine volonté du Père. Ainsi, la loi de Moïse n'est pas hors jeu, mais les chrétiens la relisent à partir de Jésus, à partir de ce que Jésus a fait, à partir de ce que Jésus a vécu. Jésus enseigne un homme qui a autorité, mais l'autorité de Jésus, c'est l'autorité du Fils, parole du Père. Avant lui, la loi était transmise par des serviteurs. En Jésus, Dieu nous envoie son témoin fidèle. Pour illustrer, je vais peut-être parler un peu longtemps, mais je suis quand même préparé. Pour illustrer la nouveauté que Jésus introduit dans l'enseignement et la pratique de la loi. Parcourons rapidement les quatre antithèses que la liturgie retient dans l'Évangile de ce jour. Elle porte successivement sur le meurtre, l'adultère, la répudiation de l'épouse et les serments. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien, moi, je vous dis, dit le Seigneur, Jésus donne toute son extension à la loi mosaïque sur le meurtre. Il y inclut la colère, l'insulte, la malédiction. La gravité de ces actes découle du fait que l'autre est un frère ou une sœur. Et on peut tuer son prochain de bien des façons. Et on peut tuer moralement quelqu'un par la médisance, la calomnie et le scandale. Et on peut tuer son prochain de toutes sortes de façons. On voit bien aujourd'hui tout ce que peut apporter la violence dans notre monde. Les disciples du Christ que nous sommes, sont les défenseurs de la vie humaine. Y compris celle à naître et celle qui s'achève. Le plaidoyer actuel pour l'euthanasie ne peut pas laisser les disciples du Christ indifférents. Au nom de leur foi, ils affirment le caractère sacré de la vie humaine et ils défendent la vie humaine. Ils donnent publiquement leur opinion. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, Jésus affirme que l'adultère ne se limite pas à l'acte sexuel. Il commence avec le désir ou le regard chargé de convoitise. C'est là que se situe la racine du mal, dans le cœur. Il y a délit d'adultère, même s'il n'y a pas passage à l'acte sexuel. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, Jésus va jusqu'à interdire ce que la loi permettait, la répudiation de l'épouse. Ainsi, parle mentionné, il rappelle l'indissolubilité du mariage. Mes amis, on voit bien aujourd'hui toutes les conséquences néfastes de l'infidélité conjugale. Vous avez encore appris qu'il a été dit « Tu ne feras pas de faux serments ». Eh bien, moi, je vous dis de ne faire aucun serment. À propos des serments, Jésus affirme « Il ne s'agit pas de savoir lesquels sont permis ou non, lesquels tolèrent le parjure ou non, il s'agit de parler vrai, sans détour ni astuce. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. » Le message de Jésus dans l'Évangile est celui d'un ami exigeant qui ne flatte pas, mais au contraire avertit, dérange, provoque à avancer et à s'améliorer au nom d'un Dieu qui a pour nous l'exigence de l'amour. L'Évangile, c'est un chemin de vérité. L'Évangile, c'est une chance, ou mieux encore, une grâce pour qui emprunte ce chemin d'Évangile. Ce qui donne valeur à notre participation à l'Eucharistie, c'est la réconciliation. Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Jésus a poussé jusqu'au bout ce paradoxe. Son offrande a consisté à s'offrir pour les hommes qui l'avaient rejeté. Comment pouvons-nous nous joindre à son sacrifice sans trembler en pensant à la distance qui nous sépare encore de cet amour total? Vraiment, nous ne pouvons nous présenter à Dieu que par Jésus, le seul homme dont l'offrande est une réponse totale à l'appel du Dieu d'amour. Amen.